La fourmi de feu est-elle en train de l'envahir le monde? Quelles sont les conséquences sur l'environnement et les autres espèces?
La fourmi de feu, c'est effectivement un grand problème actuel, parce que la fourmi de feu, c'est une fourmi qui vient de l'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, c'est une fourmi normale, je dirais, comme les autres fourmis, comme les fourmis qu'on a chez nous. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est mise à se développer, à se multiplier, à pulluler. Et en fait, elles ont perdu leur identité coloniale. C'est-à-dire que quand il y a deux colonies, au lieu de s'agresser, eh ben, elles se mettent ensemble. Elles ne s'agressent plus. Donc on a maintenant des colonies qui forment des millions d'individus. Et ça devient une véritable calamité. Et elle est en train, cette fourmi de feu, ces fourmis de feu, elles sont en train d'envahir. Il y a plusieurs espèces. Hein. Donc il y a la fourmi de feu, il y a celle qui est aux États-Unis. Il y en a une autre qu'on appelle la fourmi électrique aussi, qu'on trouve partout dans les pays tropicaux maintenant, qu'on trouve en Asie un peu partout. Alors en France, on n'a pas ce problème, sauf dans le sud, sur la Côte d'Azur, où il y a la fourmi d'Argentine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. C'est une petite fourmi noire, c'est pareil. C'est une fourmi qui vient aussi d'Argentine, qui est arrivée à Antibes au début du siècle dernier, avec des pots de fleurs, qui colonisent toute la côte depuis l'Italie, en passant par donc la Côte d'Azur, Barcelone, le sud de l'Espagne, qui remonte vers le Portugal. Cette fourmi, elle craint le froid. Donc pour l'instant, elle ne s'éloigne pas plus de 10-15 km de la côte. On ne risque pas de la voir ici, sauf dans les bâtiments. Dans les maisons, si elle arrive dans des maisons, elle restera. Alors il y a une autre fourmi qu'on trouve déjà en Touraine, une petite fourmi noire qui arrive d'Europe centrale et se développe. Il y en a ici à La Riche, par exemple, dans les jardins ouvriers. Ça a dû arriver avec des plantes, je ne sais pas. On en trouve à Blois, on en trouve dans d'autres endroits, beaucoup à Paris. Donc c'est toujours lié au transport de végétaux, ça. C'est pareil, cette petite fourmi, elle a perdu l'identité coloniale, donc ça forme d'immenses colonies. La petite fourmi noire des jardins qu'on a chez nous, que vous avez dans les pelouses, là, elle a une seule reine. En général, je ne vous l'ai pas dit, mais le plus souvent, c'est une seule reine dans la colonie. Et là, il y a des milliers de reines. Donc ça se développe à la vitesse grand V. Et ça, bon, le problème, c'est que cela, ça expulse toutes les autres espèces qui ont même tendance à disparaître, au moins au début. Après, la nature a toujours un peu de ressources. Et progressivement, les autres espèces finissent par revenir, mais ça prend beaucoup de temps. Je connais le cas à Port-le-Cat, sur la côte au sud de Narbonne, là, au bord de la Méditerranée, qui est une ville entièrement nouvelle. Il y avait la fourmi d'Argentine qui avait tout envahi, donc il y a 50 ans. Et maintenant, on voit réapparaître un peu les fourmis locales qui reviennent un petit peu. Donc on peut penser que la nature est plus forte quand même, heureusement.
On utilise aujourd'hui de plus en plus d'espèces animales pour trouver de nouveaux traitements médicaux. Qu'en est-il de la fourmi ?
Alors ça, c'est une question intéressante, parce que la fourmi, elle n'a pas de médecin, mais elle est son propre médecin. C'est-à-dire, d'abord, elle passe énormément de temps à se nettoyer, avec ses pattes, etc. Elle lèche ses pattes et tout, et puis elle fabrique ses propres substances antiseptiques. Elles ont leurs propres antibiotiques, etc. Quand il y a des microbes qui l'attaquent, elle réagit aussi en fabriquant des substances qui vont tuer les microbes. Alors évidemment, comme tout organisme vivant, de temps en temps, les microbes prennent le dessus, etc. Alors c'est intéressant, et il y a, à l'heure actuelle, on se pose pas mal de questions, par exemple sur les antibiotiques. Donc il y a des gens qui s'intéressent beaucoup aux antibiotiques produits spontanément par les fourmis. J'ai été là il y a 15 jours en Guyane. Il y a un travail qui vient de démarrer justement sur les substances antibiotiques, pas uniquement antibiotiques, qui sont fabriquées par les fourmis pour leur propre hygiène. Alors elles utilisent aussi d'autres moyens. Par exemple, les fourmis des bois, là, celles dont on parlait tout à l'heure avec les dômes de brindilles, elles vont dans les arbres, dans les sapins, chercher un petit peu de résine. Et la résine, c'est plein de substances antiseptiques, donc ça nettoie le dôme. C'est prophylactique, c'est intéressant pour elles. Alors les fourmis fabriquent aussi des poisons qui sont parfois extrêmement violents. Avec leur dard, elles peuvent piquer, hein, quand elles vont tuer une proie, un insecte. Alors ces poisons, comme tout poison, ça peut être utile, et en particulier pour l'homme. Il y a un des poisons, par exemple, qu'on a commencé, ça n'a pas marché, mais on avait commencé à essayer de l'utiliser contre la maladie d'Alzheimer. Bon, ça a été abandonné, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle sur les substances naturelles en général, d'ailleurs pas uniquement sur les fourmis. Hein. On s'intéresse beaucoup aux substances produites par exemple par les coraux en mer, etc.
Pourquoi s'intéresser aux fourmis aujourd'hui ? Y a-t-il une actualité avec elle ?
Bah, la fourmi, c'est toujours d'actualité, tout le temps. Ça intéresse toujours beaucoup de gens. On parlait tout à l'heure de l'émission « C'est pas sorcier » sur France 3, là. Je crois qu'ils ont fait au moins 3 ou 4 émissions sur les fourmis, dont deux en 2013. Et il y a au Palais de la Découverte une grande exposition sur les fourmis en ce moment. Essayez d'y aller, demandez à votre prof de biologie d'organiser une visite pour aller voir ça. Et cette exposition, elle est très sympa. J'étais dans le comité des scientifiques qui ont été consultés pour organiser cette exposition. Donc l'actualité des fourmis, bah, c'est de bons indicateurs en écologie. Par exemple, les fourmis rousses en forêt, en Touraine, elles disparaissent pas, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans. Pourquoi ? Bah, parce que les forêts sont pas en bonne santé. Aussitôt, la quantité de fourmis a tendance à diminuer. Donc c'est indicateur de l'état de pollution. Alors ce qu'on fait au laboratoire en ce moment, c'est par exemple d'utiliser la cuticule des fourmis pour voir les substances polluantes. En particulier, il y a des substances qu'on appelle des phtalates, que vous ne connaissez pas, mais qu'on trouve dans tous les plastiques mous. Pas les plastiques durs comme ça, mais dès que vous avez des plastiques mous, il y a ces substances. Et ces substances ont un rôle de perturbation des hormones chez les mammifères, comme l'homme et les oiseaux, etc. Donc on est en train de s'empoisonner avec ces substances. Et on les retrouve sur les fourmis. Donc c'est des bons indicateurs à ce niveau-là. Alors les fourmis, pourquoi actualité aussi ? Ben, parce que les informaticiens s'intéressent beaucoup aux fourmis. Ils font des modèles en prenant la fourmi comme image, comme système de fonctionnement. Et à Tours, à l'université, il y a une polytech informatique et robotique. Ils ont fait des robots fourmis. Ils ont créé des robots fourmis qui étaient exposés au musée d'histoire naturelle il y a déjà un petit moment.
La fourmi est-elle un sujet important pour la recherche ?
Bon, c'est sans doute moins important que la recherche sur le cancer, le téléthon, etc. Évidemment, ce n'est pas des applications immédiates pour l'humanité. Mais bon, comme l'homme a toujours été fasciné par l'étude, l'observation des fourmis depuis Aristote, etc. Fabre, grand naturaliste qui regardait beaucoup les fourmis. Donc, important, je dirais plutôt passionnant, intéressant, fascinant. Voilà. C'est une forme d'importance.
Est-ce que l'on mange les fourmis ? Si oui, comment les cuisiner ?
Ah oui ! Alors, dans certains pays, on mange des fourmis. En Chine, par exemple, il y a une petite fourmi noire qui est arboricole, qui est cultivée dans des vraies fermes. Il y a des milliers de fermes qui cultivent ces fourmis, qui élèvent ces fourmis, pardon, c'est pas des végétaux, parce que c'est un bon apport de protéines sans cholestérol. Les insectes, en général, n'ont pas de cholestérol. Donc c'est un bon apport de protéines. Et en plus, c'est considéré comme aphrodisiaque, c'est-à-dire stimulant pour la sexualité des hommes. Hein ? Donc, évidemment, alors là, on est prêt à dépenser des fortunes pour cela. Je ne pense pas que c'est aucun effet aphrodisiaque, pas plus que la corne de rhinocéros, mais bon. Donc voilà, mais en tout cas, ça peut être une source de protéines intéressante. En Amérique latine, au Mexique, au Brésil, on mange les rennes de fourmis au moment de l'essaimage. Les fourmis champignonistes, coupeuses de feuilles dont j'ai parlé tout à l'heure, au moment de l'essaimage, il y a des milliers de fourmis. Il y a des tapis par terre de fourmis ailées. Et c'est des rennes, donc elles sont bien grasses. Elles ont un abdomen avec du corps gras parce qu'elles sont prêtes à pondre. Et ça peut être grillé. On peut acheter dans le commerce ces fourmis. Il faut que j'en commande un jour. On ne trouve pas ça en France, mais on peut les faire venir du Brésil. Des boîtes de fourmis coupeuses de feuilles où on peut acheter les rennes. J'ai déjà mangé des criquets et des vers de farine grillés. Honnêtement, c'est pas génial. Hein. Mais bon. Ça peut être une bonne source de protéines pour l'humanité.
Merci d'être venu pour notre interview et au revoir.
Merci, au revoir. Merci de votre accueil, c'était très gentil.